Aujourd'hui, nous allons pas parler de se garder, de pratiquer notre justice devant les hommes et vraiment de le faire pour Dieu. Et si on parle de ça, c'est pas de ma faute. C'est parce que c'est le texte qui parle de ça. Et le texte qu'on va lire aujourd'hui, c'est Matthieu 6. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va faire la lecture du premier verset jusqu'au verset 18. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste aussi vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Dans ce texte, Jésus parle à des gens qui vivent leur foi. Il parle à des croyants et il parle à des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Il ne parle pas à des non-croyants. Et le sujet général que Jésus soulève dans ce texte, c'est l'attitude devant Dieu. Comme l'a dit Samuel tout à l'heure, c'est on doit être généreux. Et en fait, je vais vous exposer les trois exemples de ce texte qui sont l'aumône, la prière et le jeûne. Et en fait, c'était des pratiques strictes de la religion juive, mais que Jésus présente autrement que des prescriptions strictes, rigides à suivre. Les motivations de nos dons, de nos prières, de nos jeûnes ne doivent pas être... Ça ne doit pas être une source de légalisme, en fait. Le légalisme ne doit pas être la motivation pour prier, pour jeûner, pour faire l'aumône. Et ces motivations, elles doivent être pures. Et le texte commence par « gardez-vous bien ». Et en fait, c'est un impératif. C'est un verbe conjugal impératif. Et parce qu'il faut impérativement se garder, d'œuvrer pour être vu des autres. Car ceux qui œuvrent de manière hypocrite auront leur récompense. Et le premier point, c'est la générosité que Dieu aime voir. Souvent, en fait, on a tendance à lire ce texte comme une loi absolue. Comme quoi, il faut obligatoirement donner sans qu'il n'y ait personne autour. Mais ce texte n'est pas une règle absolue de donner sans que personne ne voit en réalité. Sinon, c'est du légalisme monté à sens inverse. Mais ce texte nous parle précisément d'aider les nécessiteux de bon cœur. Le verset 2 dit « Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. » Faire l'aumône, par définition, en fait, c'est aider les personnes appauvries. Et à l'époque, la trompette, en fait, c'était une corne de bélier ou de vache qui était utilisée pour plusieurs raisons, et notamment pour pour le culte israélite et pour rassembler le peuple dans les rues. Et d'ailleurs, le verset 2 fait référence à cela, puisqu'il mentionne dans les synagogues et dans les rues. Et aujourd'hui, dans notre culture, sonner de la trompette, ça se manifeste différemment. Parce qu'on voit rarement des gens avec des trompettes dans la rue pour dire « j'ai fait l'aumône ». Et par exemple, ça peut être dire discrètement aux gens, ou d'un ton neutre, « Oh, tu sais, jeudi, j'ai donné 5 euros à un pauvre, et en plus, j'ai acheté un kebab ». Mais en fait, l'hypocrite va aider les pauvres durant un mois par an, ou deux jours par semaine, pour se faire voir par les autres. Mais les autres mois de l'année, et les autres jours de la semaine, comment ils font? Après tout, le pauvre n'a qu'à se débrouiller les 11 autres mois de l'année. Après tout, j'ai fait mon aumône, c'est bon, je suis agréé par Dieu. Ça, c'est l'hypocrisie. Aider les nécessiteux, ça inclut par exemple d'aider financièrement une mère ou un père célibataire. Ça peut être aider un étudiant qui doit payer des factures, un appartement, et qui n'a pas beaucoup de ressources, voire pas du tout, parce qu'il doit faire quelques heures de travail par-ci par-là au McDo pour pouvoir voir un peu le bout à la fin du mois. En fait, il y a plusieurs formes de pauvreté, et on a besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il nous éclaire sur les différents types de pauvreté qui changent selon les contextes sociaux et les époques. Faire l'aumône, ce n'est pas simplement donner ponctuellement quelque chose à un mendiant. En fait, ça va au-delà de ça. Et lorsqu'on donne l'aumône à un nécessiteur, on le fait pour lui, pour son intérêt, en cherchant son bien, pour son bien-être, parce qu'il a besoin d'aide et qu'il est conscient de son besoin. Parce qu'il a plus de besoins pour vivre correctement. Et en fait, cela se fait dans le secret entre soi-même et Dieu, comme c'est dit au verset 4. Il y a acte 20, 25 qui dit, une phrase très connue, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et quand on donne à un mendiant, par exemple, on doit repartir en se mémorisant la couleur de ses yeux. On peut apporter aux pauvres, en plus de l'argent, une richesse qui est au-delà du matériel, du morceau de ferraille, la pièce ou le morceau de papier, le billet que vous lui avez donné, qu'on lui a donné. On peut lui aussi apporter notre présence, un temps de partage. Prendre du temps avec lui, c'est absolument nécessaire pour ces personnes qui sont souvent seules et méprisées du monde. Et donner de notre personne pour un mendiant, c'est vraiment une grâce qu'on peut lui apporter. Et c'est quelque chose qu'on fait pour lui, pas pour nous. Et l'aumône selon Jésus, l'aumône selon l'Évangile, est au-delà en fait des prescriptions pharisiennes de l'époque et de n'importe quelle prescription religieuse en général. En fait, c'est une attitude de cœur qui est constante à l'égard des nécessiteux. En fait, si on donne pour être bien vu des autres, on reçoit une apparence de bénéfice par la société en achetant leur regard. En fait, ça devient un acte entre guillemets commercial, dans le mauvais sens du terme, et non une aumône. En fait, ça devient un acte de rentabilité. Je donne 5 euros à un pauvre, je le dis tout haut, tout fort, comme ça des dizaines de personnes vont dire du bien de moi, et la société dans laquelle je suis me verra d'un meilleur œil. Et du coup, ça me facilitera mes relations, en attirant la faveur des gens. C'est comme ça que fonctionnaient les pharisiens à l'époque. Et si on procède ainsi, l'aumône n'est plus une grâce. Par définition, c'est même plus une aumône. Ce n'est plus une grâce envers son prochain, mais un investissement pour notre ego. Et on doit chercher à combler la faim des autres, et pas la faim de notre orgueil, la faim de notre ego. Si on se consacre à aider les autres pour se faire valoir, c'est de l'hypocrisie. C'est de la religion, car on cherche notre gloire à nous, et pas celle de Dieu. La religiosité incite au mensonge, la consécration, la générosité pour les autres exige l'authenticité envers Dieu. Dieu nous appelle à investir pour lui, pour son royaume, et la générosité apporte une récompense bien meilleure qui se projette dans l'éternité. C'est pour cela que Jésus dit que si notre main gauche ignore ce que fait notre main droite, notre Père qui voit dans le secret nous le rendra. Dans le livre d'Agé, chapitre 2, verset 8, il est dit que c'est Dieu qui dit « L'argent est à moi et l'or est à moi ». En fait, tout appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle contient. C'est une vérité qui est répétée à maintes reprises dans toute la Bible. Et toutes nos richesses, tout notre compte en banque appartient à Dieu. Nous, en fait, nous sommes simplement des gestionnaires et non des propriétaires. Alors, soyons des bons gestionnaires de ce que Dieu nous donne pour le donner à des œuvres qui nécessitent des besoins. Et en fait, nous ne sommes pas même que gestionnaires de notre argent. On est aussi gestionnaires de notre vie de prière. Et là, j'arrive à mon deuxième point, qui est la prière que Dieu aime entendre. Pour introduire ce deuxième point, je vais faire un petit témoignage. En fait, le sermon sur la montagne, c'est un passage qui m'a marqué lorsque je n'étais pas encore chrétien. Mais paradoxalement, le texte du Nouveau Testament que j'ai le plus détesté, c'est le Notre Père. Et la première fois que j'ai lu ce texte, ça m'a fait remonter des mauvais souvenirs. Petit, en fait, j'ai fait quelques mois, peut-être 2-3 de catéchisme, et on nous obligeait à réciter des prières dont le Notre Père, à faire le signe de croix, des formules religieuses qu'on nous amenait comme des formules magiques pour être soi-disant agréés par Dieu. Et quelques années plus tard, convaincu que la Bible est la parole de Dieu et que le catéchisme que j'ai suivi n'était pas fidèle à la Bible, catéchisme entre guillemets, j'ai découvert que le Notre Père avait plus de valeur que ce que je pensais et je suis tombé amoureux de cette prière. Et en réalité, pourquoi je détestais le Notre Père ? Peut-être que certains d'entre vous aussi ont vécu des choses similaires et l'ont détesté avant de rencontrer Jésus. Parce qu'en fait, des religieux ont rendu la prière du Notre Père comme une prescription absolue à appliquer. Alors que Jésus a donné l'exemple du Notre Père pour nous apprendre à s'adresser à notre Papa, ce qui est l'opposé absolu d'une prière à réciter bêtement. Et faire du Notre Père une bête récitation, en fait, c'est inverser le véritable sens du texte. Au verset 5, Jésus cite le mauvais exemple, la mauvaise attitude par excellence, de l'hypocrite qui prie pour être vu des autres et continue au verset 6 en donnant la bonne attitude en priant le Père, qui est le fait de parler avec Dieu dans le secret, en seul à seul dans notre chambre, dans un lieu reculé, à l'abri des regards. Ça dépend des traductions. Et comme pour le monde, en fait, Jésus met l'accent sur le fait de prier dans l'intimité avec Dieu, d'être consacré à Dieu, se consacrer à Dieu dans la piété. Et en fait, c'est passer du temps avec cette personne, même quand il n'y a personne autour de nous. Vraiment passer du temps avec Dieu. Et au verset 7, on peut se poser une question. Peut-on prier plusieurs fois pour un même sujet ou prier juste une fois suffit? C'est une question qui m'a beaucoup travaillé pendant un temps. Et en fait, le problème n'est pas dans le fait de prier plusieurs fois en tant que tel, mais le problème, il le dit dans le verset d'ailleurs, c'est comme les païens s'imaginent. Donc le problème, en fait, c'est notre imagination. Et ce n'est pas le fait de prier à plusieurs reprises pour un même sujet. Et dans ce cas, Jésus nous montre que notre imagination est influencée par notre intelligence humaine et qu'on s'imagine qu'en répétant des phrases de manière mécanique, ça influencera plus Dieu à agir comme le croyaient les païens de son époque. Et encore, beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être même certains d'entre nous, fonctionnent comme ça. Au verset 8, Jésus dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. » Et si Jésus nous dit de ne pas ressembler aux hypocrites, c'est pour qu'on cherche au contraire à ressembler à Dieu en passant du temps avec lui dans la prière. Et en fait, plus on passe de temps avec une personne, plus on s'imprègne de sa personnalité, de son langage, on va lui ressembler. Si on passe beaucoup de temps avec une personne vulgaire, on va nous-mêmes devenir vulgaire. Si on passe beaucoup de temps avec une personne qui a un caractère doux, dans sa manière de vivre, dans son langage, va nous être empreint de douceur aussi. Et la meilleure personne dans l'absolu avec qui il faut prendre du temps, c'est Dieu. C'est le meilleur moyen pour être transformé à son image encore plus. Et on prie aussi pour faire connaître nos besoins à Dieu, qu'il connaît déjà, car il veut qu'on nourrisse notre relation avec lui, en fait, notre dépendance à lui. Et une relation se construit en fait dans l'entretien, en s'entretenant avec la personne et dans l'échange. Passons au Notre Père. Alors, vous m'excuserez, je ne détaille pas tout le Notre Père, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, mais on va faire un petit passage rapide dessus. Le Notre Père, en fait, c'est une prière qui est très riche de sens, parce que le début du verset 9 et la fin de la prière dans la seconde partie du verset 13 sont centrés sur la souveraineté de Dieu, sa puissance, sa sainteté, son omniscience. Omniscience, c'est-à-dire qu'il sait tout. Et la prière est aussi centrée sur la sainteté de son nom, qui est témoignée en nous, car c'est lui qui nous sanctifie. Et cela nous enseigne que toutes nos prières doivent être centrées sur les attributs de Dieu. Parce que Dieu, en fait, il ne possède pas des attributs. Il est lui-même ses attributs. Ce n'est pas des choses qu'on lui ajoute. Il est pleinement amour, il est pleinement juste, etc. Et en fait, Dieu, il est la cause et la centralité de nos prières, car il est notre Père. Et quand je prie, je dois avoir en tête que Dieu est souverain, plein de bonté et qu'il est omniscient. Jésus, en fait, avec le Notre Père, il propose une prière courte et efficace. Et c'est quelque chose qui est opposé aux clichés religieux de l'époque. Et j'en veux pour preuve Matthieu 23, verset 14, qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement. » Et en fait, dans cette diatribe, Jésus fait le lien entre l'aumône et la prière. Les pharisiens, au lieu de faire l'aumône, en fait, ils voulaient les pauvres, les pauvres veuves. Et ils faisaient des longues prières. Mais Jésus nous apprend par le Notre Père que la prière est un élan envers Dieu, car la prière commence justement par notre Père. Et pour faire un élan envers Dieu, il faut le faire par amour pour lui, et pas par forcing. Peut-être que si vous ne l'avez jamais fait, vous vous sentirez bête de prier tout seul dans votre chambre. Vous aurez peut-être le sentiment de parler tout seul. On pourrait dire, ça m'est arrivé quand j'ai commencé ma vie de prière. Les premières fois où je parlais tout seul dans ma chambre, je n'étais même pas encore vraiment repenti. Je n'étais pas converti. J'ai l'impression de parler tout seul. En fait, c'est un mensonge. Et ce texte nous montre que notre Père est là quand on s'adresse à lui seul dans notre chambre. Et dire le Notre Père ne peut pas être une prière si on le dit de manière mécanique et rituelle. C'est ce que nous montre le texte. Jésus nous enseigne que la bonne attitude de la prière est de comprendre que Dieu est notre Père, et qu'on peut librement s'adresser à lui, qu'on peut librement s'élancer vers lui, et on lui fait part de nos besoins, car lui seul peut y pourvoir. Et en fait, la prière, si vous voulez, c'est comme la respiration de la vie chrétienne, le poumon du royaume de Dieu. Les oiseaux volent, les poissons nagent, l'homme prie. La prière doit être notre respiration. Il y a un verset qui dit « Priez sans cesse !» Arrête-t-on de respirer ? On respire sans cesse, sinon on fait un malaise. Quand je ne prie pas, je fais un malaise spirituel. Et pour rester en bonne santé spirituelle, on a besoin de parler avec notre Père. La catastrophe aujourd'hui est quand on prie mal. Quand on prie, tout le monde, la prière c'est plus trop à la mode en ce moment, je pense que vous l'avez remarqué. Et la preuve en est, parce que les disciples de Jésus étaient croyants, ils connaissaient des prières faites dans les cérémonies religieuses, mais Jésus a dû leur enseigner à prier réellement. Et souvent, par notre conscience de péché, on peut avoir de la timidité envers Dieu. Le fait de dire « Notre Père » brise la timidité aussi. Qu'on peut avoir envers Dieu. Il est le Dieu accessible à tous qui veut une communion avec ses enfants. Et le verset 12 nous montre que lorsqu'on prie, on peut et doit avoir la conviction que Dieu pardonne nos péchés. Le verset 12 dit « Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et quand, en fait, quand on prie, on doit être déjà dans une attitude de pardon envers notre prochain. En fait, si j'ai compris l'étendue de mon offense à Dieu, de son pardon envers moi, j'abandonne et je ne tiens plus compte du mal que l'autre m'a fait. Alors, c'est vrai que le pardon, ou pas toujours systématique. Des fois, ça prend des mois, ça prend des années. Mais quoi que nous ait fait la personne, notre péché envers Dieu est plus grave que ce que les personnes qui nous ont fait du mal nous ont fait. Les versets 14 à 15 commencent le verset 12 en disant que si on pardonne le mal aux autres, le Père nous pardonnera aussi, et que si on ne leur pardonne pas, le Père ne nous pardonnera pas. Et j'ai vu une vidéo sur YouTube, je voulais la montrer, mais elle était tellement de mauvaise qualité que je vais vous dire cette illustration du pardon. Et en fait, c'est en Amérique, il y a une maman qui s'est retrouvée en face à face du meurtrier de son fils. Et elle l'a regardé attentivement, et quand le tueur fuyait son regard, elle lui a dit, là je ne cite que quelques extraits, « Regarde-moi, tu es pardonné au nom de Jésus. Je suis chrétienne et je prierai pour toi. Regarde-moi, je prierai pour toi. Un jour, tu trouveras ce même Dieu et il pourra t'être aussi utile qu'à moi. Je ne te déteste pas. J'ai attendu un an pour être là et te le dire. Je suis triste pour toi car tu es une personne. » Fin de citation. C'est juste puissant. Une maman qui est affligée au plus profond de son être par l'assassinat de son fils, qui n'a pas encore cicatrisé la mort de son fils. Parce que dans la vidéo, elle lui dit qu'elle n'ira pas le voir en prison parce qu'elle n'a pas la force. Et elle pardonne le tueur qui est de son fils qui est en face de lui. En fait, elle était consciente qu'elle avait besoin du pardon de Dieu. Et ce pardon qu'elle a reçu, elle l'a transféré sur le meurtrier de son fils. En fait, le pardon est surhumain. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous donner la force de pardonner. On ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Et ça illustre très bien ce texte. On pardonne l'autre car on est attristé par son péché. C'est ça le fruit de la piété, de la consécration à Dieu. Ce n'est pas de montrer je suis une bonne personne, je fais des dons, des prières et des jeûnes, mais c'est prendre conscience réellement de son propre état de pécheur et de l'état de péché des autres, du péché qui sévit dans toute l'humanité. C'est Dieu donne le pardon, mais c'est la grâce. C'est grâce au pardon qu'on peut entrer dans la présence de Dieu. Et comme la dame âgée en Luc 2:37 qui servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière, on va passer au troisième point, le jeûne que Dieu aime récompenser. Au verset 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. En fait, les religieux du temps de Jésus jeûnaient deux fois par semaine. Ça, on le voit dans Luc 18:12. Et ils savaient le montrer en tirant bien la tête pour bien montrer qu'ils souffraient. Ils faisaient leur jeûne pour s'acquérir la faveur des autres. Mais Jésus présente le jeûne d'une manière complètement différente et de manière opposée. C'est-à-dire de continuer à s'entretenir comme si on ne jeûnait pas, à se laver, à se parfumer, afin que personne ne voit qu'on jeûne. En fait, le jeûne n'est pas fait pour se montrer aux autres, mais pour être dans l'intimité avec le Père, comme nous le montre le verset 18. Et lorsqu'on cherche réellement la piété et une dévotion à Dieu, on s'éloigne de l'hypocrisie, car c'est entre soi-même et Dieu. Même si on a faim, on ne cherche pas à le montrer, on saute des repas, c'est aussi parce que la nourriture spirituelle est plus importante que la nourriture physique. Ça ne veut pas dire que la nourriture physique n'est pas importante. Mais c'est entre soi et Dieu. Et ça ne concerne pas les autres. Et Jésus, en fait, il ne dit pas dans ce texte qu'il faut absolument cacher qu'on jeûne, car dans la vie en société, quand on jeûne, ça se voit par défaut. Par exemple, au travail, on ne va pas forcément aller manger avec nos collègues. Et le jeûne dans ce texte, il est privé. Mais évidemment, comme la prière, il peut être fait en communauté. Les disciples pratiquaient par exemple le jeûne d'Esther, qui était à la fête de Pourim. Mais Jésus, il veut plutôt dire que lorsqu'on jeûne, on doit d'abord le faire pour soi-même, et pas pour le montrer aux autres, pour notre communion avec Dieu. Et Jésus veut récompenser le jeûne fait de manière pieuse, consacrée à Dieu. Et le mot « récompense » dans le texte, il apparaît 4 fois. Et en fait, il est utilisé tantôt de manière positive, tantôt de manière négative, dans tout le texte. Et ce mot, d'ailleurs, nous donne la structure du texte pour vous dire ô combien il est important. Et si on cherche à faire voir notre dévotion, entre guillemets, aux hommes, si on cherche à se faire voir par les autres, ben, Dieu le voit et nous ôtera la récompense. Jésus proclame le malheur sur les hypocrites en Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. En fait, Dieu aime récompenser le jeûne qui vient d'un cœur pur consacré à Dieu. Et de même qu'il aime récompenser la prière faite dans la même attitude. Et dans le monde, on classe trop souvent l'évangile parmi une religion en parallèle aux autres religions. Mais l'évangile n'est pas une religion. Ça, on l'entend souvent. Ce n'est pas une liste de prescriptions à suivre comme les juifs avec des longues prières de 45 minutes. Non-stop. Les juifs actuels font des prières de 45 minutes sans s'arrêter. Ce n'est pas des rites précis et des jeûnes à suivre. Où les musulmans, par exemple, font 5 prières minimum par jour, en plus du ramadan et d'un jeûne qui se fait en plus de 6 jours, qui s'appelle le shawwal. Et quand les musulmans font ce jeûne dans leur religion, il est dit qu'ils sont considérés comme ayant jeûné toute l'année. Mais l'évangile, en fait, est bien plus glorieux qu'un calendrier et des considérations humaines et mathématiques. L'évangile de la gloire du royaume de Dieu resplendit et montre sa lumière dans l'aumône, la prière et le jeûne. Et pour conclure, tous les propos de Jésus dans ce texte pointent vers la vraie piété du royaume. De ne pas faire de compromis avec le péché d'orgueil qui vient corrompre l'aumône, la prière et le jeûne. La piété, c'est chercher à vivre en reconnaissance à Dieu et à faire des bonnes œuvres car elles sont bonnes, car Dieu est bon, et on le fait car Dieu est bon, et pas parce que nous sommes bons. Parce qu'en réalité, nous sommes mauvais. Mais nous pouvons le faire car Dieu est bon. Il nous fait grâce de faire des bonnes œuvres. Et en plus de nous faire grâce, il nous les récompense, alors qu'elles viennent de lui. Jésus nous dit de donner aux veuves qui faisaient partie des pauvres, nous donne une prière courte, tout l'inverse des pharisiens. Et pas qu'aux veuves, à tous les nécessiteux. Et si on veut vivre dans le règne et la volonté de Dieu, on a besoin d'être authentique, sans hypocrisie. Faire l'aumône, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est servir les nécessiteux, discerner qui a besoin de quoi, c'est se faire en fait serviteur des autres, car Dieu nous a donné plus que nous ce qu'on peut donner. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin en Christ. Et en fait, prier, c'est chercher la face de Dieu, de notre Père, et reconnaître qu'on dépend de lui. On le prie parce qu'on l'aime. On peut être en sa présence. Et jeûner, c'est se priver de nourriture pour des raisons spirituelles, pour faire un maximum abstraction de soi-même, ce qui nous apprend aussi à nous discipliner. Et être disciple, c'est se discipliner. Et c'est se sevrer d'une certaine manière des choses du monde pour s'appliquer aux choses de Dieu. Et ces trois éléments de la vie chrétienne doivent être véritablement le fruit d'une consécration, un élan envers Dieu. Ce sont des faits qui sont appliqués selon comment Jésus l'a enseigné, un véritable culte personnel envers Dieu. Le but du culte envers Dieu est de vivre selon le grand Dieu, notre Père, qui nous aime et qu'on aime. Et on a besoin de faire abstraction de soi-même pour aider les nécessiteux et pour chercher à venir devant Dieu dans la prière et le jeûne. Prenons soin des autres et de notre foi en Dieu, comme Dieu prend soin de nous. La foi est un don spirituel que Dieu nous a donné. J'ai une question à nous poser. Sommes-nous réellement consacrés à Dieu dans ces trois pratiques? Notre manque de force pour pardonner doit nous amener à prendre conscience ô combien on dépend de notre Père pour cela. L'Évangile transcende les prescriptions religieuses et la personne réellement animée par l'Évangile vit en tout temps pour aider les nécessiteux à vivre une pleine relation avec son Père. On donne aux autres en fait ce que Dieu nous a donné quand on ne peut rien donner à Dieu. Parce que Dieu est le propriétaire de nous. Et que Dieu a tout donné pour nous, jusqu'à son propre Fils à la croix, qui nous a réconciliés avec notre Père. Amen. Je vais prier. Je te remercie, Père, pour ce texte que tu nous as laissé. Pour cette grâce que tu nous fais d'être tes enfants. Et qu'on peut offrir librement, comme toi tu as tout donné pour nous, Seigneur. Je te prie pour qu'on puisse être plus fidèles à toi, plus consacrés à la vraie piété que tu nous as enseignée dans ce texte. Et que notre Église puisse être un témoignage d'un élan envers toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Amen.